Turning now to the Gospel of Luke, chapter 4 and verse 8.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 8. L'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 8. Mais Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Et notre sujet ce soir est le suivant, les deux plus grandes erreurs dans la vie. C'est là au début même du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le récit de sa tentation par Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est un récit si profond et intense de sa tentation, un temps d'épreuve pour le Fils de Dieu, qui était la deuxième personne de la Trinité, qui est entré dans une chair humaine, dans une personnalité humaine, pour nous représenter, pour venir, pour souffrir, pour mourir, pour nous, pour porter la condamnation du péché à notre place. Dès le début de son œuvre, de sa mission sur cette terre, il est assailli par l'ennemi de nos âmes. Et Satan essaye d'exploiter la nature humaine de Christ pour essayer de trouver des faiblesses dans sa nature et pour exploiter toute possibilité de passer à côté de cette grande mission pour sauver les âmes des hommes et des femmes. C'est inconcevable que Christ succombe à ces tentations. Cependant, ces tentations se passent et le diable essaye de le faire tomber. Cependant, ce n'est pas ceci que j'aimerais considérer ce soir, mais ce verset, deux déclarations du Seigneur au cours de cette tentation. Et ceci est si profond pour nous en tant qu'individus. La première chose au verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu ». Et le deuxième point est au verset 8, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ces deux déclarations sont toutes les deux citées presque exactement du livre du Deutéronome. Les cinq premiers livres de la Bible étaient un jour un seul livre, le livre de Moïse. Et ces deux déclarations apparaissent là. Elles sont fondamentales. La base de l'expérience humaine et de la foi humaine. Nous allons considérer ces choses ce soir. Et j'ai deux points ce soir, deux grandes erreurs dans la vie que nous sommes enclins à faire. La première erreur est là au verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. C'est une erreur fondamentale que de ne pas écouter Dieu. Et j'aimerais essayer d'expliquer ceci dans un premier temps. Si nous n'écoutons pas Dieu, sa révélation à la race humaine, son explication de pourquoi nous sommes ici, son explication de l'état de la race humaine, l'explication divine concernant Dieu, son attitude envers l'homme, ce qu'il a fait pour nous réconcilier avec lui-même. Si nous n'écoutons pas ces choses, alors il n'y a rien pour notre âme, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais tout ce que vous comprenez, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous écoutez est uniquement, purement, pour votre corps, le bienfait de votre corps, pour votre existence dans ce monde matériel. Il n'y a rien pour votre âme, à moins que vous ne dériviez ceci de Dieu. Si vous choisissez de ne pas croire en Dieu, en sa parole, si vous choisissez de rejeter le message chrétien et toutes ces choses, alors il n'y a rien, absolument rien pour l'âme, toute une partie de votre être. C'est là dans ce verset quelque chose de fondamental. Il n'y a rien pour nous, pas de but, pas de destinée dans notre vie si nous n'écoutons pas Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. En soutenant simplement le corps avec rien pour l'âme. L'âme, de temps en temps, nous parlons de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme si mystérieuse, quels sont ses composants? Quelles sont ses caractéristiques? Il y a une partie matérielle en nous et il y a une partie immatérielle en nous. C'est là ce que nous enseigne la parole de Dieu. Une partie matérielle, ce qui peut être examiné, biologiquement parlant, disséqué et décrit et observé. Et il y a également ce qui ne peut pas être vu à l'œil humain. La partie immatérielle de nous-mêmes, l'âme, et de manière générale, la partie immatérielle de nous-mêmes, même si nous ne pouvons pas être entièrement exacts, parce que l'âme utilise également le cerveau, et dans un certain sens occupe le cerveau. Comme un musicien joue d'un instrument, de même l'âme utilise le cerveau. Et nous pouvons parfois dire que certaines choses font partie de l'âme, et une certaine mesure, ces choses peuvent faire partie de la complexité du cerveau dans le corps, mais pour être simple, nous parlons de l'âme en 5 facultés, ou si nous voyons ceci de manière différente, selon l'enseignement de la Bible, quand vous mourrez, votre âme quitte le corps, votre âme va dans la présence de Dieu. Combien en vous va dans la présence de Dieu pour être jugé ou pour être béni pour l'éternité, pour être condamné loin de lui ou avec lui? Combien en vous, non pas les parties physiques de votre corps, mais votre âme immatérielle et l'élément en vous qui survit à la mort et qui continue à vivre et qui se tient devant Dieu et qui habite l'éternité? Nous allons décrire ceci comme étant l'âme. Et il y a 5 facultés dans l'âme qui vous accompagnent. Ces facultés, dans une certaine mesure, seront enracinées dans le corps, dans la partie matérielle de notre cerveau. Nous ne comprenons pas ces choses. Ces choses ne nous sont pas expliquées dans la parole de Dieu. Cependant, ces choses sont également immatérielles. La première chose, c'est votre pensée. Vous avez une capacité à réfléchir même en dehors de votre corps dans l'éternité. Bien sûr, l'enseignement de la Bible est que votre âme est revêtue à nouveau d'un corps glorifié pour l'éternité. Mais il y a un moment, un temps, si nous mourons avant la venue du Seigneur, avant la fin du monde, alors notre âme, sans notre corps, va dans l'éternité. Et votre réflexion, votre pensée, votre faculté rationnelle, ceci est dans l'âme, la partie immatérielle. Notre pensée, notre capacité à raisonner, à comprendre, cet élément en nous qui fait de nous des êtres humains complètement différents des animaux, bien au-delà des animaux. Il y a une deuxième faculté dans notre âme, à côté de votre capacité à raisonner, c'est vos affections ou votre cœur. Quand l'âme quitte le corps, vous aurez la capacité à ressentir l'amour, en particulier dans l'éternité si vous êtes sauvé. Vos affections vous accompagnent. Votre capacité à ressentir votre cœur, nous allons parler un peu plus de ceci. Et ensuite, il y a une troisième faculté également qui vous accompagne, votre volonté, votre détermination, votre volonté. Il y a une grande mesure de ceci dans votre âme. Ceci fait partie de votre personnalité immatérielle qui vous accompagne en dehors du corps à votre mort. Votre pensée, votre cœur, votre volonté, où la plupart de ces choses font partie de votre personnalité intrinsèque et essentielle, qui est en dehors, différente de votre corps physique. Et il y a 2 autres facultés ou aspects en dehors de ceci. Il y a votre conscience, cette faculté extraordinaire qui nous est donnée en tant qu'être humain. C'est comme votre juge qui réside en vous, qui parfois essaie de raisonner avec vous et vous appelle à réfléchir, vous donne votre sens de ce qui est bien, de ce qui est mal, ceci fait partie de vous. Votre conscience morale, votre conscience. Et ensuite, il y a une cinquième partie en vous. Et peut-être que, d'une certaine manière, c'est la chose la plus précieuse, c'est votre esprit. Parfois, dans la Bible, le terme âme et le terme esprit peuvent être interchangés. Et d'une certaine manière, ces deux termes parlent de la même chose, parce que l'esprit fait partie de votre âme, mais l'esprit se réfère en particulier à cette partie en vous, cette faculté en vous qui vous rend capable de communiquer avec Dieu, d'interagir avec lui. Bien sûr, si vous ne venez pas à Christ, si votre âme n'est pas sauvée, alors votre esprit est inactif. Votre esprit dort, il est endormi, il ne fait rien. Vous pouvez dire, il est en train de rouiller, de vieillir, de se détériorer, il est inutile, il ne fonctionne pas. Vous ne priez pas, vous n'êtes pas sensible à quoi que ce soit, à la parole de Dieu, vous n'avez pas de relation avec lui, pas du tout. Et votre esprit ne fonctionne pas comme un membre qui ne bouge plus, qui est paralysé, qui est là à côté de vous et qui ne peut rien faire, qui ne peut pas bouger. Il n'est pas en vie, mais il n'est pas mort non plus, il ne ressent rien. Et avant que nous soyons convertis à Dieu, notre esprit est dans cet état désespéré. Il y a ces cinq parties en nous. La pensée, le cœur ou les affections, la volonté, la conscience et l'esprit. Et ces cinq parties de votre âme ont désespérément besoin d'être nourries. Elles ont désespérément besoin d'instruction. Elles ont désespérément besoin de la parole de Dieu. Et il y a toute une dimension en vous, la dimension éternelle, la partie la plus précieuse, la plus importante en vous qui ne peut pas fonctionner sans la parole de Dieu. Oh, mais peut-être que je suis un incroyant et je méprise la parole de Dieu. Pour moi, c'est simplement un ensemble de contes de fées. Je l'ignore, je ne la connais pas et j'ai été programmée pour la mépriser, pour me moquer de la parole de Dieu. Quelle tragédie! Parce que mon âme ne peut pas fonctionner sans la parole de Dieu. Ce sont là des paroles profondes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin du salut, nous avons besoin de la conversion à Christ, nous avons besoin d'être amenés à la vie, nous avons besoin d'être pardonnés de notre péché, nous avons besoin d'être réconciliés avec lui. C'est quelque chose de désespéré. Sinon, il n'y a pas de nourriture spirituelle. Et alors, notre pensée n'a pas d'information pour agir, elle n'a pas d'instruction, il n'y a pas de référence dans notre vie, il n'y a pas de carte pour savoir où nous allons, où nous sommes. Peut-être que je suis très intelligent, le plus grand des scientifiques, mais cependant, si ma pensée n'est pas enseignée et instruite par la parole de Dieu, alors je connais si peu, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne crois pas en Dieu, je ne le reconnais pas comme étant Dieu, je ne le connais pas, je ne le comprends pas, je ne sais rien par rapport à lui, par rapport à l'éternité, je ne sais rien par rapport au chemin du salut, je ne sais pas comment le chercher, le trouver, avoir le réconfort, l'aide d'en haut et la force du Seigneur. Oh, c'est terrible que d'être dans cet état-là. Et cependant, je peux avoir tous les honneurs de l'université et peut-être être le plus grand expert dans mon domaine. Et pourtant que c'est triste d'être dans cette position, parce que spirituellement parlant, je n'ai pas de relation avec Dieu et pas d'instruction de sa part. Comme un navire qui n'a pas de GPS, je ne connais pas le chemin vers Dieu, vers le ciel. Peut-être je suis quelqu'un d'important dans la police, mais sans Dieu, je ne comprends pas la nature humaine. Je n'ai pas entendu parler de la chute de l'homme, du péché de l'homme dans sa nature même, intrinsèque, et je pense que l'homme est bon, et tous mes principes, toutes mes valeurs sont complètement sens dessus dessous, parce que je ne comprends pas ce que c'est que le péché et le comportement de l'homme sans Dieu. Je ne connais pas les attributs de Dieu, Mon esprit, ma pensée n'a pas d'instruction. Je ne connais pas le salut et je ne peux pas aller dans l'éternité. Et mon cœur, qui devrait être dirigé par la pensée, fonctionne par lui-même. Ainsi, je suis une personne sentimentale, émotionnelle. Mes affections changent ici et là. Je vois quelque chose que j'aime, alors je le veux. Je n'ai pas de direction, pas de critères. La pensée ne dirige pas mon cœur pour lui montrer le chemin. Vous voyez ceci dans la société. Il n'y a jamais eu une société si émotionnelle que de nos jours. Les émotions prennent le dessus et la pensée est mise de côté. Et les gens réagissent immédiatement. Et ce qui est important, c'est ce qu'ils ressentent. C'est là ce qui se passe quand la pensée ne donne pas d'instruction à l'affection et la volonté. Je n'ai pas de volonté, pas de crainte de Dieu et je n'aime pas Dieu. Je n'ai pas d'amour pour ses critères moraux parce que mon esprit n'est pas instruit. Ainsi, je veux tout ce que je vois. Combien les facultés de l'âme sont vide sans l'instruction de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Qu'en est-il de la conscience? Sans la Bible, pas de révélation de Dieu, pas de critères moraux absolus révélés, pas d'informations sur qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, comment est-ce que Dieu nous voit, et la conscience ne sait pas où aller. Nous nous disons, « Oh, je n'aime pas la voix de ma conscience. Elle me dit de faire ceci, de ne pas faire cela. » De ne pas faire quelque chose d'autre, et je veux être libre de tout ceci. Je veux reprogrammer ma conscience pour être libre, et je vais lui dire que ceci est un non-sens, ce sont des valeurs héritées du passé, et je me dis que c'est tout à fait bon dans ma situation d'être libre et de me conduire comme je veux, d'avoir toutes sortes de choses pour mon plaisir, et je ne veux pas écouter ma conscience si elle me trouble, et je la rends silencieuse, et elle ne parle plus. La conscience n'a pas les critères moraux de Dieu absolus révélés. Et c'est ce que la société fait de nos jours. Elle décide, oh, je veux faire ceci, je veux faire cela, et elle change les lois, des lois que tout le monde pensait être normales et justes dans le passé, à présent sont changées. Et je veux avoir une entière liberté pour réduire les 10 commandements. À 2 commandements. Ne tuez pas et ne dérobez pas. Tout le reste, vous pouvez le faire sans aucun problème. Nous reprogrammons la conscience. Et ce n'est pas surprenant que tant de personnes ne trouvent pas leur chemin et sont déroutées. Et l'esprit, j'ai déjà mentionné, est entièrement inactif et dormant. Combien nous avons besoin de l'instruction de la parole de Dieu de nos jours? C'est plutôt comme quand vous essayez dans le passé de visiter l'ex-URSS et avant 1990, si vous alliez parmi des touristes en ex-URSS, que vous alliez à Moscou par exemple, alors on vous montrerait le chemin. Vous auriez toujours des gens pour vous accompagner et vous seriez là pour regarder ce qu'on vous montre. Même si vous étiez quelqu'un d'important, on vous montrerait ce qu'on veut vous montrer. Vous ne pourriez pas être libre d'aller où vous voulez. Et de même aujourd'hui dans notre société qui nous dit « Ne croyez pas en Dieu, n'allez pas là !» La création par Dieu, non. Nous changeons la loi. Vous ne devez pas enseigner ces choses à l'école. Ou c'est comme visiter la Corée du Nord de nos jours. Si vous êtes optimiste pour aller en Corée du Nord en tant que touriste, ne pensez pas que vous allez voir tout ce que vous voulez. Non, vous allez visiter quelques endroits où vous avez le droit d'y aller. C'est de même dans notre société aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de chercher Dieu. Vous ne devez pas être enseigné de trop par rapport au Créateur, à Dieu. Et votre pensée doit être conformiste. Et sans la parole de Dieu, sans la révélation de Dieu, sans le message de la Bible, votre âme est dans la difficulté et vous ne pouvez pas fonctionner. Et j'aimerais en arriver au verset 8, avec le peu de temps que nous avons. Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Non seulement votre âme a besoin de la parole de Dieu, mais vous avez besoin de Dieu pour l'adorer. Parce que vous êtes une créature qui adore, qui a été créée pour adorer. Vous êtes créée par Dieu et vous avez été créée pour l'adorer, pour apprendre de lui, pour le chercher, pour l'aimer. Et si vous ne faites pas cela, alors vous allez adorer des substituts à Dieu. Et tout le monde présent dans cette église ce soir est quelqu'un qui adore quelque chose. Si nous n'adorons pas Dieu, si nous n'avons jamais été convertis à lui, si nous ne l'avons pas trouvé, si nos péchés ne sont pas pardonnés, alors nous sommes attirés par d'autres choses et nous adorons d'autres choses. Vous ne pouvez pas éviter cela. Nous sommes des êtres qui adorons. Ce terme traduit par « adorer » dans le Nouveau Testament vient du terme « se prosterner devant quelque chose ». Se prosterner, fléchir le genou, se soumettre à adorer, estimer quelque chose. Et dans votre nature même, vous allez faire cela. Si vous n'adorez pas Dieu, alors vous adorez toutes sortes d'autres choses. Si vous dites « Oh, je suis libre, je ne veux pas cette idée de Dieu, je ne veux pas l'adorer », alors je suis libre. Non, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes jamais libre. Si seulement nous pouvions nous voir nous-mêmes, nous adorons d'autres choses. Et nous donnons notre vie, notre énergie à d'autres choses. Quelque chose de bien plus petit, d'infiniment plus petit que Dieu. Quelque chose qui n'a pas d'espoir. Quelque chose peut-être qui est très cher. Quelque chose de mort, peut-être le divertissement, peut-être des biens, peut-être des gens, des célébrités, peut-être la politique. Peu importe, il y a quelque chose qui vous a agrippé et vous êtes insensé. Beaucoup de ces autres choses sont importantes et nous devons y prêter attention, mais nous ne devons pas les adorer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tous les buts terrestres, certains sont bons, mais ils ne sont pas dignes d'être adorés. Nous ne devons pas nous y soumettre. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Pourquoi est-ce que nous adorons toutes sortes d'alternatives à Dieu? Mais nous devons faire cela pour remplir ce vide en nous. Si nous n'adorons pas Dieu, nous avons un vide en nous et nous devons le combler. Nous devons avoir quelque chose en dehors de nous-mêmes que nous pouvons honorer, respecter, explorer et nous soumettre à ces choses. Toutes ces autres choses, ces alternatives à Dieu, sont des choses qui nous agrippent et nous en dépendons. C'est pour remplir notre vide. Si nous ne voulons pas le ciel et si nous ne voulons pas Dieu et le glorifier, l'honorer, alors nous devons avoir d'autres buts dans notre vie, des buts plus petits et nous allons suivre ces choses. Mais nous devons avoir un but dans notre vie. Il n'y a pas d'autre alternative pour nous. Comme une plante pousse vers le soleil, comme l'aiguille d'une boussole va vers le nord, de même nous avons besoin d'un but et nous avons besoin d'adorer. Nous avons besoin d'un grand projet, de quelque chose que nous pouvons adorer ou un grand projet, des ambitions. C'est si insensé d'avoir des idoles d'argent et d'or qui sont inanimées, qui ne peuvent pas aimer, qui ne peuvent pas vous écouter, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas agir. Mais vous pourriez dire ceci de toutes vos idoles terrestres. Elles ne peuvent pas vous aider, elles ne peuvent pas vous aimer, elles ne peuvent pas vous amener au ciel, elles ne peuvent pas vous changer en tant que personne et faire de vous de meilleures personnes. Et plus profond, meilleur, plus sensible. Ces idoles ne peuvent rien faire pour vous. Et le Seigneur dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mes chers amis, tout substitut à Dieu, toutes ces choses sont bien trop petites pour votre intelligence, pour les facultés de votre âme et elles ne peuvent pas vous aider. De nos jours, les choses qui nous intéressent, les choses que nous prenons comme idole. Imaginez que vous viviez il y a 200 ans. Quelles seraient vos idoles? Qu'est-ce que vous rechercheriez? De quoi est-ce que vous auriez faim et soif? Qu'est-ce qui aurait de la valeur dans votre vie? Si vous aviez un peu de richesse, peut-être un beau chariot avec des bœufs, ceci semble ridicule de nos jours. Imaginez, il y a 200 ans, vous imaginez cet homme, cette femme, en rêvant d'un chariot avec des bœufs, en abandonnant tout pour ces choses. Mais nous vivons dans une autre génération et nous réalisons que ceci est si petit pour un être humain que de faire de ceci son idole. Et dans 200 ans, ils vont réfléchir en se disant « Oh, cet homme, cette femme, il y a 200 ans, a rejeté Dieu pour avoir cette toute petite chose si insensée, qui est passée, qui est finie, qui n'a plus de valeur, qui était d'il y a 200 ans. » Imaginez et essayez d'avoir une nouvelle perspective. Seul Dieu, le Dieu vivant, est digne de votre adoration, de votre amour, de votre affection, chers amis. La première erreur de ces deux plus grandes erreurs dans la vie. S'il n'y a rien pour notre âme, pas d'explication de la part de la parole de Dieu, pas le chemin du salut, pas de critères moraux, pas de promesses pour notre vie et pour l'éternité, c'est une grande erreur. La deuxième grande erreur, c'est d'adorer des choses si petites, matérielles, des choses qui passent sur cette terre. Chers amis, les deux plus grandes erreurs, ne les faites pas. Ne faites pas ces erreurs. Christ est venu du ciel pour souffrir, pour mourir à la croix du calvaire, pour porter la condamnation du péché, pour tous ceux qui se confient en lui, qui croient en lui. Vous venez à lui pour nourrir votre âme, pour vous donner une vie nouvelle, pour pardonner votre péché, pour vous donner le ciel, pour qu'il soit votre Dieu, pour qu'il soit votre ami céleste, votre compagnon, jusqu'à la fin de votre vie. Repentez-vous de votre péché et donnez-lui votre vie. Laissez-le vous transformer. Laissez-le amener votre âme à la vie pour que vous puissiez tout voir selon le regard de Dieu et qu'il puisse revivifier vos affections pour que vous puissiez l'aimer, que vous puissiez connaître son affection, qu'il puisse réveiller votre volonté pour que vous puissiez avoir la force pour combattre le péché et avoir la victoire et le suivre, quoi qu'il arrive, qu'il puisse réveiller votre conscience pour qu'elle soit pure, pour qu'elle puisse vous diriger et qu'il puisse amener votre esprit à la vie pour que vous puissiez avoir cette communion avec lui et le prier et comprendre sa parole et marcher avec lui. C'est là la chose la plus importante. Vous avez besoin de Christ. Et je relis ces deux grandes déclarations du Seigneur pour conclure. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, aide-nous chacun, nous te prions, délivre-nous, Seigneur, de ce chemin où nous errons dans cette grande erreur et l'ignorance de notre âme. Seigneur, aide-nous à réaliser notre besoin de toi et tout ce que Christ a fait pour nous et de l'avoir lui et de venir à lui. Seigneur, bénis chacun, nous te le demandons, dans le nom de notre bien-aimé Sauveur. Amen.